Impression Jazz, une émission proposée par Guy Reynard. Un Impression Jazz aujourd'hui consacré à l'actualité, puisque nous recevons donc aujourd'hui Benjamin Thiébaut.
Bonjour.
Bonjour, qui a sorti un disque, mais qui n'est pas encore tout à fait disponible, n'est-ce pas ?
C'est ça, c'est-à-dire que le disque devait sortir à l'origine au mois de mai. Il était prévu pour le 8, vendredi 8, et du fait de la crise sanitaire actuelle, nous avons dû repousser la sortie du disque au mois d'octobre, et donc il sortira le vendredi 30.
Donc notez bien la date, parce que je crois que c'est un disque qui en vaut la peine. Alors le disque s'appelle « Émergence ».
Oui, alors Émergence, d'autant ils verront ce qu'ils veulent y voir, mais pour un premier album, ça nous semblait plutôt approprié avec le label qui participe avec moi dans cette aventure. Et c'est également le titre d'un des morceaux du disque.
Voilà. Et Émergence, donc pourquoi ? Vous avez choisi Émergence, pourquoi ? Parce que vous apparaissez ?
Oui, simplicité. L'idée, c'est de dire que comme c'est un premier disque, on espère que c'est un disque d'un artiste émergent.
Voilà. Donc, alors, vous avez choisi en trio. Je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes pianiste.
C'est ça. Alors, je suis pianiste, originaire de Montpellier. Sur mon disque se trouvent les musiciens Arthur Rennes, contrebassiste, résident à Paris, et Valentin Jamme, batteur de Montpellier également.
Bah, donc, alors, pourquoi avez-vous choisi le trio pour débuter ?
Alors le trio, c'est simple, pour moi c'est la formule un peu idéale du pianiste de jazz. Ce sont les premiers disques de jazz que j'ai écoutés. J'ai découvert ça avec les trios de Michel Petrucciani, de Bill Evans, de Brad Meldo et également de Esbjörn Svensson, donc un pianiste suédois dont le titre du groupe est EST.
EST, oui.
En plus simple, Esbjörn Svensson trio. Donc c'est la formule un peu abouti pour moi, du pianiste de jazz.
Voilà. Mais en général, on ne débute pas par un trio. On débute souvent en étant le pianiste d'un saxophoniste ou d'un trompettiste.
C'est vrai. Moi, j'ai commencé le jazz il y a une dizaine d'années à Montpellier, en particulier au sein d'une école de musique qui s'appelle le Jam. Mmh. Et j'ai effectivement accompagné des musiciens dans leur groupe, en tant que sideman, tout en écrivant ma musique petit à petit à côté, ce qui m'a mené à l'envie de concrétiser ces compositions et cet univers musical par ce premier album.
Oui, parce que sur cet album, il n'y a pratiquement que vos compositions.
C'est ça, il y a un morceau de Thelonious Monk que je réarrange un peu à ma façon, mais l'ensemble du disque se compose de créations originales. Et ce sont des morceaux que j'ai écrits sur les 5 dernières années. C'est une sélection de ce que je trouvais les plus adéquats.
Et tout ça donne une sonorité tout à fait personnelle à ce disque. On en reparlera peut-être tout à l'heure quand on aura écouté de la musique. Mais il n'y a pas de hiatus, disons, entre les morceaux. On sent bien qu'il y a une ligne directrice.
C'est-à-dire que quand bien même, comme je vous l'ai précisé, les compositions s'inscrivent dans le temps sur une période assez longue, elles sont pour moi celles qui me caractérisent le plus sur un plan personnel et musical. Et donc on trouve un fil conducteur au niveau mélodique et dans l'approche compositionnelle, effectivement.
Voilà. Alors ce n'est pas un disque autoproduit, comme on dit maintenant, c'est un disque pour lequel une maison de disques fait...
Alors c'est tout de même un disque autoproduit. Mais qui est distribué en collaboration avec une maison de disques.
Maison de disques, voilà. Alors pourquoi avez-vous choisi cette formule ? Ou est-ce qu'elle vous a été imposée ?
Parlez-vous de la formule du trio ou parlez-vous de la formule de la collaboration avec une maison de disques ?
De la collaboration avec une maison de disques.
Elle ne m'a pas été imposée, je l'ai choisie, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, même si on peut faire sans, ça reste intéressant de travailler au sein d'une équipe. Également de soutenir les labels qui sont en difficulté avec l'industrie du disque actuelle. Surtout qu'il s'agit d'un label indépendant.
Voilà, alors vous n'avez pas donné le nom du label.
Qui s'appelle Parallel Records.
Parallel Records. Donc Parallel pour... j'ai regardé un petit peu sur Internet, puisque parallelrecords.com, c'est leur site web.
Tout à fait.
Ils n'ont pas choisi la facilité.
C'est exactement ce que je pense, et je leur d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon choix. Ils choisissent la qualité avant la quantité, et pour moi, c'est un grand honneur de faire partie d'une collection de disques avec des artistes que j'apprécie et même que j'admire, et pour certains qui ont été professeurs au conservatoire où j'ai étudié.
Ça, on en reparlera tout à l'heure de votre formation. Peut-être on va tout de suite écouter un premier morceau. Alors, c'est vous qui avez choisi toutes les musiques, les vôtres et celles d'autres musiciens, oui. Puisqu'on a parlé de ST tout à l'heure. Je me lancerai pas à parler suédois. Parce que...
Vous faites bien, parce que moi, quand j'essaye, je m'écorche la voix. Donc,
groupe qui a disparu malheureusement.
Malheureusement, oui.
Par la force des choses.
Que je n'ai pas eu la chance de voir en concert et que j'aurais bien aimé.
J'ai eu la chance de les voir deux fois en concert, oui. Donc c'était beaucoup mieux qu'en disque, je dois dire, souvent. Donc là, vous avez choisi un morceau à vous pour commencer,
oui.
Comme présentation. Donc c'était un morceau qui s'appelle Assesti.
Oui.
Tout le disque est en trio et en piano acoustique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un morceau que je joue au piano électrique, oui. Et en l'occurrence le Wurlitzer. Et ce morceau-là, c'est le morceau qui s'appelle Émergence, et qui donne le titre à l'album. Et je le joue sur le Wurlitzer de mon père, qu'il avait acheté il y a 30 ans, et qu'il a laissé longtemps de côté, et que j'ai ressorti à l'occasion de l'enregistrement de cet album.
Alors, donc, on l'écoute, c'est un morceau en trio et piano acoustique. Thank you. Azesti, extrait de l'album Émergence de Benjamin Thiébaut, donc avec Arthur N à la basse et Valentin Jam à la batterie. J'ai tendance à dire Jam parce que je trouve qu'il a un
nom. Il porte son nom beaucoup trop bien pour que ça ne soit pas prononcé. Voilà.
Qui est prédestiné donc, pour le jazz. Alors, comment avez-vous conçu ce morceau, effectivement ?
Alors, Azesti, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai écrit quand je résidais à l'étranger, et en l'occurrence à Amsterdam, où j'ai effectué une partie de mes études et où j'habitais jusqu'à récemment. Je l'ai appelé Azesti car j'ai juste fait un jeu de mots avec le fait qu'il faisait beau, que c'était un samedi, et que j'ai voulu contracter A Saturday Tune, A Sunny Saturday Tune, Azesti.
Mais Amsterdam, il fait quand même beau de temps en temps.
Pourtant, il fait plus. Voilà, c'est-à-dire que pour une fois, il faisait beau. Et pourtant, d'habitude, c'est un pays où il pleut beaucoup. Et c'était d'autant plus agréable de voir le soleil.
Donc, Amsterdam est une ville extrêmement jazz, je dirais, musicale également, mais jazz en particulier, puisqu'il y a une grande salle que vous avez dû fréquenter, je suppose.
Le Beam House.
Voilà, le Beam House. Puis, et les grands concerts souvent ont lieu à la grande salle de musique classique.
Le concert très beau.
Voilà. Donc, je vous laisse le prononcer parce que c'est encore difficile pour quelqu'un du sud de la France. Comment l'avez-vous conçu justement ce morceau ?
Je l'ai d'abord entendu car je travaillais une suite d'accords, celle qu'on entend au début. Qui consiste en des accords mineurs que je décale par ton, et ensuite je descends d'un demi-ton et je fais la même chose. Donc ça vient d'un exercice. En m'exerçant au piano avec un type de voicing que je voulais travailler, j'ai commencé à entendre une mélodie. J'ai ensuite écrit la mélodie, et puis finalement vient cette partie qu'on appelle la section B, dans un morceau de jazz, qui est un peu plus mélodique et aérienne, et qui module sur le ton, le relatif majeur du ton principal. Mais vraiment, ça venait de cette envie de travailler des nouvelles couleurs, et en travaillant des nouvelles couleurs, ça m'a généré des nouvelles idées.
C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas sur une feuille de papier et vous n'écrivez pas de notes.
Non, j'écris toujours au piano.
Vous écrivez au piano.
Il faut que l'idée provienne de l'oreille, et moi, je n'arrive pas à entendre... Avec la partition, il faut que je m'assoie au piano et que je joue.
Donc c'est ce que me disait Steve Coleman, la composition, c'est une improvisation lente.
Oui, c'était la composition. Bill Evans disait que la composition, c'est... la différence entre la composition et l'improvisation, c'est qu'il faut 3 mois pour écrire 3 minutes de musique en composition, et pour une improvisation, il faut 3 minutes pour écrire 3 minutes d'improvisation.
Et puis, de toute façon, même ce qui est écrit en jazz, en général, ça se transforme.
C'est-à-dire que, oui, après, le fait d'improviser autour de la forme donne au morceau une couleur qui peut être pas toujours la même.
Alors, vous dites que vous avez fait vos études à Amsterdam, mais je suppose que vous avez commencé en France.
En France, tout à fait, à Montpellier d'abord, et puis ensuite à Paris, au conservatoire.
Voilà, donc vous avez commencé par le piano à quel âge ?
Alors, j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans, dans une école de musique associative. Par la suite, je suis rentré au conservatoire, et c'est là que j'ai commencé véritablement ma formation, par le piano classique.
Et je dirais que sur certains morceaux, ça s'entend particulièrement, non pas sur le toucher de piano, mais sur le son que vous donnez, parce qu'il vous en reste, il en reste toujours quelque chose.
Il reste beaucoup de choses de mes heures de travail, des partitions de Bach, de Beethoven.
Oui. Et comment êtes-vous venu au jazz ?
Et justement, je suis venu au jazz par le fait que j'ai... en parallèle de ma pratique du piano, commençais à jouer un peu de batterie quand j'étais adolescent. Donc je faisais plutôt partie de groupes de rock. Mélanger ça avec mon envie au piano de plus en plus d'improviser librement. Et j'ai commencé à improviser à un âge assez jeune. Tout simplement quand je rentrais du cinéma avec mes parents et que j'avais encore la mélodie des films que j'étais allé voir en tête. Et je les reproduisais d'oreille, et j'improvisais à partir de là. Et donc, la combinaison l'improvisation au piano et du rythme à la batterie m'ont amené au jazz.
Mais est-ce qu'il y a des disques qui vous ont plus particulièrement marqué ?
Bien évidemment, ça a commencé par le fait d'écouter des pianistes de jazz qui m'ont par la suite influencé. Et donc j'ai commencé en écoutant des pianistes, comme je disais tout à l'heure, comme Esbjørn Svensson, mais donc plutôt moderne. Mais également, assez rapidement, je me suis tourné vers Bill Evans, Oscar Peterson et aussi Brad Meldow.
Brad Meldow, après qu'il soit devenu un peu plus, je dirais, sociable.
Oui, et puis il était déjà dans une période où il était connu. Et on m'avait prêté un disque qui s'appelle Art of the Trio volume 3, sur lequel j'ai beaucoup accroché. Et j'ai écouté également des pianistes comme Michel Petrucciani pour leur toucher justement à la fois délicat et très rythmique.
Mais Michel Petrucciani, lui, se réclamait de Bill Evans.
Alors après, tout se recoupe. Mais... c'est sûr que chacune... On peut toujours remonter toujours un peu plus en arrière pour retracer le fil conducteur de tout ça.
Alors on va continuer, on a beaucoup parlé de EST, de Svensson.
Et justement, je voulais préciser que moi, ce qui m'avait plu chez EST, c'était de retrouver les couleurs harmoniques et mélodiques qui étaient les miennes, qui étaient celles de ma culture, donc de celles de ma culture classique. Et j'ai choisi donc un extrait d'un album qui me rappelle beaucoup la musique de Bach. Thank you.
EST, donc je vais massacrer le nom, mais Egbert Swenson, le groupe a disparu non pas parce qu'ils se sont fâchés, mais parce que Egbert Swenson a eu un accident de natation, je dirais, peut-être d'imprudence, parce qu'il se baignait dans le port de Stockholm et un bateau l'a accroché et donc il est mort, il n'est pas remonté.
C'est vrai que moi j'ai découvert ce groupe et je me souviens avoir écouté énormément leur musique avant d'être au courant qu'il était déjà décédé. Car il est mort assez jeune,
oui.
Et j'avais le regret de ne pas pouvoir les avoir entendus en direct.
Oui, en direct, je dirais que c'était encore plus spectaculaire. Donc,
et c'est le propre du jazz d'être une musique vivante.
Exactement, oui. Parce que la musique en boîte, c'est bien joli, mais c'est comme une photo par rapport à un film, quoi.
C'est exactement ça.
C'est un arrêt sur image. Et
c'est pas comme en vrai.
C'est pas comme en vrai. Donc, nous en étions restés donc, à vos influences. Alors, on va continuer à parler peut-être. Alors, est-ce que vous êtes remonté encore plus loin, c'est-à-dire vers les pianistes genre Duke Ellington, Thelonious Monk,
oui,
Fats Waller?
C'est des pianistes que je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais à rebrousse-chemin.
Voilà, c'est-à-dire comme beaucoup d'amateurs de jazz, je dirais. Parce que on est d'abord attiré par ce qui existe actuellement, par les gens qu'on pourrait voir, les gens qu'on entend.
Par ce qui nous touche directement, je dirais.
Voilà, exactement. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a une histoire.
C'est ça.
Et cette histoire est tout à fait importante.
Et tout à fait primordiale, d'ailleurs, de connaître et d'étudier et de comprendre.
Alors, est-ce que vous êtes touché, par exemple, par un compositeur comme Duke Ellington, qui était quelqu'un d'extrêmement créatif, je dirais?
Ah ben, c'est sûr que récemment, j'ai fait un concert dans lequel on a joué Caravan. Alors, c'est Juan Tizol qui l'a écrit, mais c'est l'orchestre de Duke Ellington qui l'a rendu célèbre, ce morceau. Et j'écoutais comment Duke Ellington jouait, exposait le thème. Et j'étais fasciné par sa puissance rythmique, son choix d'accord, et à quel point pas du tout comme je l'aurais compris il y a 10 ans si je l'avais écouté avec les connaissances que j'avais à l'époque. Et maintenant, je peux l'apprécier d'autant plus.
Voilà, et c'est valable pratiquement pour tous les musiciens de jazz.
Oui, c'est pareil, par exemple, pour la musique ou le jeu de piano de Thelonious Monk, que je n'appréciais pas de prime abord quand j'ai commencé. D'autant plus que je venais plutôt de quelque chose de peut-être plus doux, moins dur. Et en fait, en le temps passant, j'apprends à comprendre ce qu'il y a de si fort dans sa musique et dans son jeu. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai choisi un morceau de Thelonious Monk.
Voilà, mais il faudra attendre jusqu'au mois d'octobre, fin octobre.
Jusqu'au vendredi 30.
Vendredi 30, donc, pour découvrir ce morceau, puisque nous ne le passerons pas aujourd'hui. On a décidé de privilégier vos propres compositions, vos propres créations. Plus que compositions, je dirais, finalement.
C'est une création, puisque c'est la première fois qu'elle se trouve sur un disque. Mais oui, on peut l'appeler création ou composition.
Mais Thelonious Monk est quelqu'un de radicalement différent. Je dirais peut-être même encore plus radicalement différent que les autres musiciens. Enfin, moi, je veux dire, je suis venu au jazz par Louis Armstrong, le quintet et le septet de 1927-28. Le son est quelque chose de complètement différent. Mais en même temps, on a Sidney Bechet, qui était en France à cette époque-là, qui, lui, est tout à fait, je dirais, beaucoup plus dans une tradition très occidentale. Alors que Monk, Armstrong, à l'époque, sont dans des traditions beaucoup plus brutes, beaucoup plus dans ce qui fait le jazz. Monk, on est constamment intrigué par la mélodie.
On est intrigué par la mélodie, on est intrigué par le rythme, on est intrigué par son jeu, qui est un jeu percussif. Laurent de Wilde dit dans son livre que c'est presque le jeu d'un vibraphoniste. Mmh. Et on est également intrigué par ces compositions qui sonnent à toutes les sauces, tellement elles sont brutes et efficaces. C'est quelque chose de répétitif. Beaucoup de ces thèmes ressemblent à des riffs. Et donc, on l'entend une fois, on s'en souvient encore 10 ans après.
Voilà. Puis de toute façon, quand on entend un morceau de Thelonious Monk, même si on n'est pas capable de mettre un titre dessus, on sait que c'est de Monk.
C'est aussi effectivement très important à souligner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper. Et quand on entend une composition de Monk, on sait que c'est de Monk. Et donc ça prouve à quel point c'est un musicien unique.
Voilà, alors pour continuer, donc, vous avez choisi un morceau à vous cette fois-ci.
Alors, toujours un morceau du disque qui s'appelle Pantin et qui ressemble beaucoup à un morceau d'une de mes influences que j'ai cité tout à l'heure, en l'occurrence un morceau de Brad Meldo.
Alors, c'est un morceau donc qui clôt l'album.
C'est le morceau de clôture de l'album, oui.
Ça ne clôra pas l'émission, n'ayez crainte.
Voilà, c'est ça.
Mais donc, Pantin, toujours une composition...
Tirée du disque d'émergence.
D'émergence de Benjamin Thiébaut.
Thank you.
Pantin, donc c'est toujours Benjamin Thiébaut qui est au micro et au piano, donc au micro aujourd'hui, au piano sur le disque qui s'appelle Émergence. Alors vous vouliez rajouter quelque chose sur le morceau que nous avons écouté en entrée qui est Azesti?
Non, c'est-à-dire que comme on a précisé le titre d'Azesti et qu'il avait été composé à l'époque où j'habitais à Amsterdam, j'ai pensé en réécoutant Pantin que ce serait intéressant de signaler que Pantin, je l'ai écrit quand j'étais à Paris, d'où le titre comme la station de métro.
Et le quartier de Paris.
Et le quartier, évidemment.
Le quartier de Paris. Mais donc c'est Pantin en tant que station de métro ou lieu géographique plus qu'un vrai Pantin.
Oui, mais ça permet de voir un peu les deux et c'est ça qui m'intéresse aussi.
Voilà. Alors justement, je vais poser une question sur les titres, parce que vos titres sont souvent aussi énigmatiques que ceux de Thelonious Monk, dont on parlait beaucoup.
Alors, pour les autres titres de l'album, comme il comporte, lui, 8 pistes, je peux vous les expliquer dans l'ordre. Mm-hmm. Mais étant donné qu'on va en écouter encore un plus tard dans l'émission, peut-être à ce moment-là, je vous en dirai
voilà,
plus.
Voilà, puis de toute façon, on a déjà exploré deux titres, plus le titre de Thelonious Monk, donc ça en fait un certain nombre, Émergence, puisqu'il a donné son titre à l'album.
On sait pourquoi il s'appelle comme ça.
Voilà. Donc, Ten Sleeves, on voit pourquoi, donc 10 feuilles.
Oui, c'est ça. Alors, celui-là, c'est parce que je l'ai écrit un dimanche.
Vous avez fait toute la programmation. Vous avez beaucoup parlé de Brad Meldow.
Alors, oui, j'ai parlé de Brad Meldow comme une de mes influences, puisque, comme je vous le disais, moi, j'ai commencé la musique par l'étude du piano classique, et puis ensuite, en jouant du rock à la batterie. En mélangeant les deux, je suis arrivé au jazz. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers Brad Meldow.
Pourtant, Brad Meldow, il n'y a pas trop de rock dans son jeu.
C'est-à-dire que ça reste un pianiste de jazz, mais il a beaucoup fait de reprises de musiciens de groupes de rock, comme Radiohead ou Nick Drake.
Mais il est jazzifié, si on peut dire.
Il est jazzifié, et c'est ça qui m'intéresse chez lui à l'époque où je commence le jazz.
Un petit peu ce que fait aussi un autre trio, donc, qui a changé de pianiste maintenant, mais qui est de Bad Plus.
Oui, alors avec c'est le trio de Ethan Iverson à l'origine, que j'ai eu la chance d'avoir en masterclass lors de mes études à Paris.
Et donc, il y a un pianiste qui n'y est plus dans le groupe maintenant, puisqu'il est remplacé par un pianiste noir, ce qui paraît un peu plus compliqué. D'ailleurs, si vous avez vu dans la salle de réunion, nous avions organisé Radio Clapas un concert avec The Bad Plus, en compagnie des gens de Junas. Et c'est dans ce même esprit que vous comptez un jour, puisqu'il n'y en a pas là-dessus, reprendre des thèmes de rock.
Pas nécessairement. Je me pose vraiment la question de la direction musicale que j'ai envie de prendre aujourd'hui. Moi, par exemple, à l'occasion du confinement, je me suis beaucoup amusé avec les musiques plutôt latines, donc la salsa, la samba. Et donc, ça me permet de développer un peu plus mon rapport au rythme.
Je dirais que c'est plus répétitif, les musiques latines, du point de vue du piano. On connaît tous le rythme classique et la façon de jouer des pianistes donc de cubains en particulier. Et comment, justement, voyez-vous cette façon un peu étroite, je dirais, de jouer du piano?
Alors justement, c'est intéressant qu'on en parle. Un des extraits que j'ai choisi de diffuser aujourd'hui de l'album comporte une clave inspirée de la clave cubaine et tournée d'une manière qui est un peu plus bancale, puisque, pour parler à nouveau un peu technique, en termes techniques, au lieu qu'elle soit en quatre temps par mesure, elle est dans une métrique qui est impaire.
Alors donc, c'est un morceau à vous, à nouveau.
Oui.
Donc on ne passera pas Brad Meldow, parce que malheureusement, le temps s'est écoulé. Donc, mais Brad Meldow, on a tellement l'occasion de l'entendre.
Voilà, on voulait écouter le morceau qui s'intitule Unrequited. Mais si vous souhaitez qu'on écoute la composition de mon disque, dont je peux vous expliquer rapidement le titre, oui. Elle s'appelle Exuo.
Alors, exuo, c'est...
Ça vient du latin, exuire, et c'est la racine du mot qui a donné le mot exutoire.
Benjamin Thiébaud et le disque Émergence, disque qui va sortir donc à la fin du mois, le 31 octobre, avec un concert de présentation, de célébration de la sortie du disque, malheureusement pas à Montpellier, à cause de l'absence de salles et de la Covid qui pose problème, mais à Paris, au Sunside.
Voilà, donc on jouera au Sunside le mercredi 28 octobre, à partir de 19h30, avec les musiciens de l'album, donc en trio, avec Arthur et Valentin.
Voilà, et ce sera la présentation...
Et c'est donc la présentation du disque Émergence.
Qui sortira donc dans les bacs cette fois-ci.
Alors, il sera dans les bacs le vendredi 30 octobre.
30 octobre, très bien. Donc, on va terminer, parce que malheureusement, Benjamin Thiébaud, le temps est trop court, comme toujours, quand on parle de quelque chose qui nous passionne aussi bien l'un que l'autre, tous les deux, et qu'on écoute des musiques que nous aimons également. Est-ce que vous reviendrez peut-être ?
Je reviendrai avec grand plaisir présenter d'autres musiques, d'autres influences ou d'autres morceaux.
Oui, d'autres disques probablement.
Ou d'autres disques.
Mais malheureusement, il faut d'abord amortir celui-là.
Voilà, d'abord rendez-vous le 28 octobre au Sunside.
Au Sunside, ça va être peut-être un peu difficile pour les Montpelliérains.
Pour les Montpelliérains, oui, mais qui sait ? Ce sera les vacances de la Toussaint.
Malheureusement, sur Internet, éventuellement, on peut écouter sur les radios donc, de Paris, c'est-à-dire la radio jazz qui s'appelle...
Oui, il y a plusieurs radios. Après, c'est sûr que pour l'écouter en ligne, le plus simple, ce sera d'attendre la sortie officielle le 30 octobre et d'aller sur Deezer ou sur iTunes.
Pour le moment, il n'est sur aucune plateforme.
Pour l'instant, non. Voilà. Nous attendons
donc nous en avons eu
la fin du mois d'octobre.
Nous en avons eu la...
C'était son avant-première.
La priorité. Donc, Benjamin Thiébaud, merci.
Merci
donc,
à vous.
Merci d'avoir présenté ce disque Émergence. Je pense que dès la semaine prochaine, j'en repasserai un extrait dans les nouveautés, puisque ce sera une nouveauté pour aller chez les gens, puisque le disque ne sera pas sorti.
Pas encore, oui.
Pas encore. Donc, vous revenez à moi. Alors, vous avez choisi pour terminer un pianiste américain qui s'appelle Aaron Parks.
Voilà, donc pour moi, qui est une composition de lui qui ressemble, c'est-à-dire qui m'a influencé pour le morceau qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Exuo. Et le morceau d'Aaron Parks en question se trouve sur un album de Terence Blanchard. Et le morceau s'intitule On the Verge.
Merci donc Benjamin Thiébaud. Au revoir. Rendez-vous pour un prochain numéro d'Impression Jazz. Merci à Pierre-Jean qui a réalisé cette émission. Vous retrouvez Radio Clapas sur son site web radioclapas.fr ainsi que sur Facebook. Réécoutez les émissions passées sur le site web de la radio en cliquant sur l'icône de l'émission Impression Jazz.